Bonne réponse.
C'est vous qui gagnez.
Alors je vais donner le point à Dominique Besselard. Absolument.
Victoire. Bravo.
Bravo. Et on vous accueille en même temps, ça tombe bien. Voilà. Quelle entrée.
La bande originale. Leïla Kadou.
Bravo, quelle entrée, Dominique Besnéard. En effet, c'était Valérie Lemercier qui chantait Goûte mes frites.
Oui.
Et voilà, Goûte mes frites, un titre qu'il faut vraiment aller écouter. Comment ça va, Dominique?
Ben, ça va bien, voilà, je suis là, je suis content de vous retrouver.
Ben, nous aussi, on est ravis de vous accueillir dans la bande originale. Dominique, je le disais, comme toujours, une actualité toujours très chargée avec vous, Dominique. Il y a non seulement ce livre, Nos actrices françaises.
7 kilos.
Ah ouais, c'est une somme, absolument. Alors là, vraiment,
c'est le premier tome. Hein.
Et oui, parce que d'ailleurs, on se dit autant il y a quoi, une quinzaine d'actrices, un petit peu plus dedans, mais il y en a tellement qui existent et qui n'ont pas eu.
Alors le problème, c'est que pour bien préciser les choses, ouais. C'est un livre donc qui fait 900 pages. C'est Jean-Michel Parker qui est voilà. Un ami que j'aime beaucoup, qui est un fou de cinéma, mais vous savez comme un caractère de La Bruyère, très précis. Il a vu tous les films, il analyse tous les films, et il a surtout on en a rencontré beaucoup. Mais on était obligé de faire un choix, donc on va faire un deuxième qui va apparaître. Mais c'est plutôt ça commence à la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Ouais. Il n'y a pas Huppert, il n'y a pas Nathalie Baye, il n'y a pas Gianni, mais il y a vraiment cette période du cinéma. Mais ce qui était très important, et nous le tenions, c'est aussi de parler de celles qu'on a un peu oubliées,
c'est
alors
vrai.
Que ça a été Françoise Arnoul, Dany Carrel, qui ont été des stars importantes. Et même, il y a certaines qu'on a, on n'a pas pu mettre deux, et j'en suis malade, c'est Macha Merrill et comment est-ce ? Il y en a une autre que j'ai oubliée.
Non, voilà, pauvre, on l'a oublié deux fois.
Mais elle sera dans le tome 2.
C'est vrai que j'ai découvert des actrices que je ne connaissais pas du tout. En effet, Dany Carrel, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Françoise Arnoux, notamment. On va en parler.
Et Dieu sait si elles ont été des stars. Hein.
Moi,
c'est-à-dire
j'adore,
qu'on dans quelques années, celles qu'on considère comme des stars, où elles seront dans 30 ans. Je ne sais pas si elles seront là
ça
encore.
Ça, c'est la cruauté du temps. Ouais, hein. Ouais. Vraisemblablement, il y a un certain nombre d'actrices qu'on va oublier. Je suis ravie que...
C'est Marie Laforêt qui n'est pas.
Moi, et pourquoi n'a pas ne pas avoir mis Marie Laforêt.
Parce que moi, je voulais qu'on en mette 32, on en a mis 30, mais 900 pages, voilà, comme vous dites,
il
est déjà assez lourd.
Vous n'étiez pas à 30 pages près.
Non, on avait plus que 30. Mais là aussi, ce qui était important aussi, c'était d'avoir la cohérence au niveau des photos.
Oui.
Et c'est le même photographe, Sam Levin, qui a été le grand photographe de cette époque-là. Et donc, c'était très important. Voilà.
Et les photos sont très belles, en effet, et à chaque chapitre consacré aux actrices, à la fin, on trouve un résumé de leur filmographie, ce qui est aussi très très bien, parce que ça permet de se repérer dans ce qu'on a pu voir d'elles, à quelle époque ça correspondait approximativement.
Exactement. Vous dire situé dans un film.
Oui, et on va parler aussi vraiment du franc-parler de Jean-Michel Parker, qui n'hésite pas à dire à quel moment ces actrices ont joué dans de très beaux films, ou parfois dans des nanars, ou des films vraiment peu exigeants, et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, on n'est pas sur simplement une ode à la comédienne, on est vraiment sur un travail qui permet de retracer la carrière.
Il y en a même certaines qui n'étaient pas contentes de la façon dont il parlait. Alors, la bonne chose étant mieux, parce que comme elle est un peu retirée, Bardot a été très, très ému et très touché. Donc, ça a fait plaisir, parce que comme Bardot n'est plus vraiment dans le cinéma, eh bien, elle a vraiment aimé le livre.
Dominique Besnéard, vous l'avez compris, vous êtes à la maison dans la bande originale. Et tout de suite, il y a Tristan Lopin.
Oh non.
C'est lui. Tristan, avez-vous bien compris pourquoi Dominique est notre invité aujourd'hui?
Oui, j'ai bien compris. J'ai surtout compris que vous aviez parcouru ma vie sans forcément que je m'en rende compte, Dominique Besnéard. 37,2 le matin, l'été en pente douce, un indien dans la ville, la cité de la peur, Beaumarchais, l'insolent, Didier, ça ira mieux demain, Muséo, Musée Bas, Happy End, Edmond, 16 printemps, vous êtes partout. Tantôt discret, tantôt exubérant, parfois muet ou omniprésent. Vous êtes comme mon syndrome de l'imposteur, ma peur de l'échec ou juste mon ex. Vous êtes toujours un peu là, finalement. Et si on ne vous voit pas sur la toile, c'est mieux pour vous occuper des artistes. Adjani, Marceau, Gainsbourg, Chabat, Cantona, Bedos, Béard, Robin, Pagny, Ozon et j'en passe. J'ose même pas imaginer l'état de votre charge mentale. Mais dites-nous la vérité, Dominique. Combien de crépages de chignons, d'implants capillaires, de chirurgies esthétiques ratées nous cachez-vous? Combien de célébrités, d'idoles, que dis-je, d'icônes menez-vous par le bout du nez? Combien d'entre elles pouvez-vous faire chanter au point d'avoir les pleins pouvoirs sur leur carrière? Vous êtes un peu la gossip girl du Cinoche, en fait. Qui a couché avec qui? Pour quel rôle? Ou plus plutôt avec qui faut-il coucher. Ah. Et là, je suis très sérieux sur le dossier de Dominique. Alexis et Camille font les malins à côté de moi, genre non, mais on sait pas du tout de quoi ils parlent. Sachez-le, Dominique, pour percer dans le game du Cinoche, on est prêt à tout. Je n'ai aucun problème à dérouler du câble, mais il faut que ça soit efficace.
Oh là là là.
J'ai plus de temps à perdre, moi. Il me reste max 3 ans de cheveux pour jouer les mecs un peu sexy, 30 piges. Après, je serai condamné à jouer du Jean-Claude Duss ad vitam aeternam. J'ai pas le time. Alors, j'ai bien conscience qu'on ne file pas les bons plans comme ça à la radio. On peut carrément s'en parler hors antenne. Mais si vous avez des tuyaux, faites croquer. La première fois que j'ai fait un casting, le résumé du perso, c'était Lucas, homosexuel assumé, porte un tatouage de Ryan Gosling sur la fesse gauche. À quel moment ça définit un personnage? C'est fou, comme quand on assume d'être homosexuel aujourd'hui, encore, on nous limite à des rôles tellement clichés. Je veux dire, tous les comédiens ne sont pas cantonnés à des rôles qui correspondent à l'image la plus cliché que l'on a d'eux aussi. Faut sortir de tout ça, faut rêver, oui. Christian Clavier peut jouer un bobo féministe pro-immigration, tout comme Nicolas Bedos peut certainement interpréter un mec qui a l'air juste sympa. Vraiment, je pense qu'on peut tous tout jouer, je veux juste le montrer, et pour ça, Dominique, il faut me dire avec qui il faut coucher. Pour la bande originale, c'était Daniel Morin, et franchement, c'était une jolie surprise, vraiment, Daniel. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous ce soir-là, mais sur ce coup-là,
vraiment
ouais, jolie surprise,
oh, c'est joli. Terrible. J'ai pas eu la même expérience.
Mais laisse-moi une chance, j'ai une deuxième chance, Léla.
Là, il faut m'aider, Dominique. Je sais que vous aimez follement Marlène Jobert. Aidez-moi à devenir la Marlène de quelqu'un. Avançons ensemble vers un cinéma différent. Les rémunérations pour les femmes dans le milieu du cinéma sont encore inférieures à celles des hommes. La population féminine représente 52% de la population, mais les rôles principaux portés par des femmes, que 38%. En 2019, seulement 25,9% des films français étaient réalisés ou co-réalisés par des femmes. Malgré les beaux films qu'elles ont pu réaliser l'année passée, aucune d'entre elles n'a été nommée en meilleure réalisatrice au César 2023. Réglons ce problème de l'égalité homme-femme, qu'on passe enfin aux autres minorités. On attend, nous.
Bravo, bravo Tristan Lopin. Et Tristan, on te retrouve sur scène.
Oh, l'excellent Tristan Lopin, ouais, qui a fort bon goût, qui sera à Bourg-les-Valence le 1er mars, le lendemain il sera à Lille le 2 mars et à Tours le 11 mars.
Qui n'a pas eu encore la réponse de Dominique Mesnéhar, par qui faut-il passer?
Là, on en parlera en
bien sûr, hors antenne.
Il y a MeToo quand même parmi les homosexuels, il faut faire attention à ce que vous dites.
Ouais, faites mollo,
on a l'impression
mollo.
Que pour... ouais, non, mais c'est de l'humour. Bon.
Bien sûr, et puis on parlera des Césars tout à l'heure avec Guillemette Odissino et de cette égalité homme-femme évoquée à juste titre par Tristan Lopin à l'instant. Dominique Besnéhar, 30 comédiennes dans ce livre signé, je le rappelle, Jean-Michel Parker, dont vous vous êtes occupé de la préface, et vous le dites dans cette préface, justement, il y en a une seule, simplement, que vous n'avez pas connue.
Françoise d'Orléac.
Oui, Françoise d'Orléac.
Par contre, je me souviens vraiment, quand j'étais petit, quand j'ai entendu à l'annonce, qui est en 67 ou 60 quand elle a eu cet accident.
Françoise d'Orléac, il faut préciser.
C'était la sœur de Catherine Deneuve. Elle s'est tuée en voiture. Elle était très jeune. Elle avait même pas 35 ans, je crois.
On la voyait dans Les Demoiselles de Rochefort, notamment.
Et voilà,
pour les films
et elle
le plus
était
grand public.
En ascension. Elle était vraiment une star, même internationale. Elle fait des films en Angleterre. Et je me souviens quand même que, déjà, j'aimais les acteurs et les actrices. Et je me souviens de la dépêche qui passait pas toutes les minutes comme maintenant dans les chaînes d'information, l'accident. Et je me souviens que ça m'avait marqué. Donc je vais avoir 13 ans. Voilà. Donc c'est vrai que c'est la seule. Mais on a repris des termes de pour la préface de ce que disait Catherine sur sa sœur.
Oui, c'était une actrice à naître en fait.
C'était une actrice. Je pense qu'on disait toujours les gens qui l'ont connue. Brialy l'a très bien connue. On a beaucoup parlé. Jean-Pierre Cassel, donc elle était la petite amie. Eh bien, on savait que c'était une femme exubérante. C'est un peu elle était assez différente de Catherine. Oui. Qui est plus mystérieuse, qui est peut-être un peu plus froide comme ça. Et l'autre, il paraît que c'était une bête à jouer. Elle n'aimait que jouer. Oui. Et voilà. Donc, et moi, Jean-François Perrier aussi m'en avait parlé en disant que elle avait joué une pièce de théâtre, un Colette au théâtre. Et elle avait été très, 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 très impressionnante.
Le théâtre, justement, on le voit à travers ses destins de femmes, a pu jouer un rôle pour être repérée, pour aller au cinéma. Je pense à votre documentaire sur Marlène Jobert aussi, que j'ai eu le plaisir de voir. Ce documentaire, C'est moi, Marlène Jobert, que vous signez, qu'on peut retrouver sur MyCanal, sur Canal+, sur la plateforme. Comment Marlène Jobert, par son rôle dans Black Comedy, est repérée aussi et attirée, aspirée par le cinéma?
Mais c'était une époque où, bon, d'abord, il y avait moins de comédiens, il y avait moins de spectacles. Il y avait un spectacle à 21h, on n'avait pas un 18h, 19h, 21h. Dans tous les théâtres, c'est aussi un problème, ça. Ouais. C'est que déjà, quand vous regardez l'officiel des spectacles, je dis, attendez, on est perdu.
Bon. C'est un problème, ou alors c'est au contraire.
Non, mais en même temps, c'est bien aussi parce que ça permet. Ça permet, mais pour se faire repérer, c'est plus compliqué.
C'est vrai que
Marlène Jobert, quand elle a fait Des clowns par milliers, la première, il y avait ce qu'on appelait des générales. Il y avait des générales où il y avait tout le métier tout, qui venait voir le spectacle. Et Marlène, elle avait d'abord un petit rôle, enfin elle avait un beau rôle, pardon, dans Des clowns par milliers avec Montand. Et tout d'un coup, le lendemain, il y avait à l'époque François qui était sérieux, il y avait une étoile aînée.
Ouais.
C'est plus compliqué maintenant. Ouais. Mais en même temps, c'est une étoile aînée, mais c'est pas pour ça qu'on était... Il a fallu qu'elle fasse Black Comedy après pour être repérée par notre ami Audiard, qui l'a choisi et qui lui a permis de commencer avec Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
Camille Lavap qui joue dans Black Comedy en plus. Donc quand j'ai vu l'extrait de la pièce, je me suis dit, tiens, alors c'est vrai que Marlène Jobert, c'est quand même un profil étonnant. Et je peux imaginer assez aisément pourquoi elle vous a autant tapé dans l'œil, en fait. Elle est frondeuse, elle est autre chose que ce qu'on pouvait imaginer d'une actrice de l'époque. Alors bien sûr, avec des Delphine Seyrig, on voit très bien qu'il y a des femmes comme ça, avec des gros caractères, mais elle était malicieuse, elle finissait toujours par obtenir ce qu'elle voulait, j'ai l'impression.
Mais surtout, elle a été très très populaire. Il y en avait trois à l'époque. Il y avait Romy Schneider, il y avait Girardot, surtout, et Marlène. Pendant les années 70, ça a été les trois. Deneuve était plus en retrait. Deneuve, elle était une actrice, bien sûr, très connue, mais les trois, elles arrivaient à être aimée par le public, le grand public. Et Marlène, pourquoi ? Parce que moi, quand j'étais à Wigate, pour moi, Marlène Jobert, j'avais l'impression que je pouvais peut-être un jour lui adresser la parole. Oui. Ce qui n'aurait jamais été le cas, mais à mes 10 ans, de m'adresser à Catherine Deneuve ou à Delphine Seyrig. Ouais. Delphine Seyrig, elle était plutôt... J'ai plutôt rencontré, quand je suis arrivé à Paris, en voyant le cinéma d'auteur. Moi, à Wigate, au casino, je voyais les films populaires. Oui. Mais il y avait un film qui me... Du reste, j'avais triché pour assister. C'est L'Astragale, qui était un film très audacieux. C'était 37 degrés de le matin de l'époque.
De Guy Cazaril,
parce que c'était le roman d'Albertine Sarrazin, mais c'était carrément... Elle est presque tout le temps nue. Et moi, j'ai pu passer par derrière dans le cinéma pour aller la voir. Ce n'était pas pour la voir nue, c'est parce que je l'aimais. Mmh. Voilà, donc voilà, je suis très content d'avoir fait le documentaire parce que Marlène, elle est un peu... Elle est maintenant à la campagne, elle écrit ses contes, elle est très proche de sa fille, donc de ses filles, mais notamment de Eva, puisque elle revit un peu à travers elle une carrière importante d'actrice.
Eva Green, qu'on va retrouver dans Les Mousquetaires, notamment.
Mais c'est vrai que Marlène, elle est très pudique et elle n'était pas très chaude. Je dis, mais il n'y a rien de toi. Il n'y a rien sur toi.
Ouais.
Et quand on a été invité par Thierry Frémaux au Festival Lumière, elle m'a dit, mais père, tout le monde m'oublie. Elle est rentrée dans la salle et je crois qu'elle a, elle a cru se trouver mal. Il y avait 600 personnes debout qui lui ont fait le standing ovation. Donc voilà, comme ce n'est pas quelqu'un qu'on a viré du cinéma, c'est elle qui a choisi de partir.
Tout comme Brigitte Bardot.
Comme Brigitte Bardot.
C'est bien clairement indiqué qu'elle a décidé à un moment de se retirer, qu'elle a vendu beaucoup de biens personnels pour sa fondation, pour ce pour quoi elle voulait militer, à savoir la préservation et la défense des animaux.
Bardot est partie très très jeune.
Elle est partie à peine
42, 43 ans.
Hein. Et dans les interviews, elle disait, je prendrai ma retraite à 35 ans, à peu près, donc elle n'a pas été vraiment très très loin de ça. Et elle est partie. Elle a renoncé complètement. C'est une actrice, par exemple, avec qui vous avez encore des contacts ?
Non, mais je n'ai pas eu de contacts, j'ai très peu connu, mais j'ai une très très belle histoire avec elle quand même, parce que quand j'étais agent, je voulais absolument la rencontrer, et elle avait un grand agent qui s'appelait Olga Ostig, et un jour, il y avait une ressortie de la vérité, et elle m'a dit, ben viens, tu pourras venir, elle va venir. Mais c'était une ressortie, donc déjà, elle était plus dans le cinéma, et donc j'ai pu la rencontrer, et donc moi, j'étais un peu ému quand même, j'étais déjà agent, j'étais pas... donc j'avais quand même du... Je pouvais affronter quand même. Et à un moment donné, je me suis mis derrière elle et elle m'a dit, Dominique, asseyez-vous à côté de moi. Et je l'ai vue et ça, c'est merveilleux quand le film est passé. Vous savez, elle était un peu maquillée.
Oui,
un peu trop maquillée. Et à un moment donné, vous savez, les années où on se faisait vraiment... Et tout d'un
l'œil coup... L'œil noir, ouais, au col.
Et là, elle a pleuré. En se voyant, et ça, pour moi, de l'avoir vue pleurer sur elle-même, sur un film très beau, parce que La Vérité, c'est un de ses meilleurs films. Donc voilà le souvenir que j'ai de Bardot.
Eh bien, plein d'autres souvenirs aussi, et plein d'autres anecdotes dans ce livre de Jean-Michel Parker, nos actrices françaises, 30 comédiennes qui ont fait les beaux jours du cinéma français, qui ont été à l'affiche. Il y aura un tome 2, peut-être que...
Il y aura un tome 3, j'espère, hein, parce que voilà, il faut... Vous savez, c'est important de moi, je suis un peu, des fois, agacé qu'on oublie ces gens. Moi, je suis très nostalgique, mais pas pour ça, dans un autre monde. Mais quand je vais dans des cours de théâtre, la dernière fois, je me suis énervé. Il y a une jeune qui était très douée. J'étais la voir après, je lui ai dit, vous êtes vraiment bien. Vous me faites penser à Marie-France Pizier.
Ah là là.
Et alors, elle me dit, oui, donc elle ne savait pas qui c'était, ce que je peux comprendre. Et je suis revenu quelques temps après. Je lui ai dit, t'as regardé la photo de Marie-France Pizier, t'as vu ? Ah non.
Ah, pas eu la curiosité d'aller voir.
Alors là, je peux vous dire que là, celle-là, je
l'ai... C'est mort.
Non, mais je vais rendre...
Marie-France Pizier, Stéphane Audran, j'avoue que j'ai une petite passion aussi pour ces deux comédiennes-là, qu'on connaît, c'est vrai, un petit peu moins. À l'époque, vous disiez que Marlène Jobert était très populaire, Annie Girardot. Aujourd'hui, des actrices très populaires, ce serait qui ?
Ben, il y a Virginie Efira. Moi, Virginie Efira, elle me fait un peu penser à Marlène. Il y a Virginie Efira.
Qui gagne sur les deux tableaux, Virginie Efira, j'ai l'impression, parce qu'à la fois, elle fait du cinéma d'auteur et elle est très populaire.
Oui, elle a les deux. Pour moi, c'est une actrice vraiment incroyable. Mais il y a Sandrine Kiberlin.
Ah, Karine Viard aussi.
Il y a Karine Viard, mais qui font, et c'est quand même des actrices.
C'est
Karine Viard, elle pourrait être notre Girardot maintenant. Ouais. Donc, il y a quand même des correspondances. Et peut-être Sandrine Kiberlin, c'est peut-être plus Delphine Seyrig. Elle fait un choix de film, bien que Sandrine Kiberlin, elle fait aussi des films populaires.
Ouais.
Donc voilà. Donc ça, c'est des actrices...
Il y avait un engagement chez Delphine Seyrig qui était très très fort aussi.
Oui, mais peut-être... Oui,
très
mais,
martelé quand même.
Oui, bien sûr.
Elle était très...
Mais en même temps, Delphine Seyrig, c'était quelqu'un qui est... moi, j'aimais bien ces féministes comme Delphine Seyrig ou Jeanne Moreau.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elles aimaient les hommes. Mm-hmm. Beaucoup les hommes, et elle défendait les femmes, les droits des femmes. De temps en temps, elles n'aiment pas les hommes, et elles défendent mal les droits des femmes. C'est envoyé.
Allez, ça y est. Mais il y en a d'autres qui continuent d'aimer beaucoup les hommes et qui défendent toujours les femmes. En tout cas, on retrouve le documentaire de Dominique « C'est moi, Marlène Jobert » sur Canal. Ce livre, bien entendu, est dans la bande originale. Tout de suite, c'est Camille Lavabre. Bonjour Camille.
Coucou.
Ça va vous?
Oh,
super.
Oui. Ouais, alors moi je me sens un peu oppressée là. Bah oui, comme on reçoit Dominique Besnéard, je suis un peu dans mes petits souliers. Et comme chose du 44, ça sert. Cela dit, le fait que vous soyez là, Dominique, ça m'a rappelé ma rencontre assez magique avec ma première agent artistique. Ah. Un vrai conte de fées, celui dont on rêve quand on a 20 ans et qu'on débarque à Paris depuis sa province natale et qu'on imagine qu'on va se faire repérer dans le métro. Donc moi, souvent, je clamais des vers de Racine juste comme ça, au cas où, quoi, sur la ligne 12 entre Pigalle et Barbès. Mais je le vivais vraiment, peut-être un peu trop d'ailleurs, j'étais un peu intense. Je clamais des « Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore ?» Enfin, j'étais fraîchement arrivée à Paris, donc c'était plutôt « Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Pêcheur, elle est pas bien. Errante et sans dessin, je cours dans ce palais. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Pêcheur, elle est bipolaire au max. Le cruel, de quel œil il m'a congédié? Sans pitié, sans douleur, au moins étudié. Oh, tu vois, il s'en bat la race. La ai-je vu se troubler et se plaindre un moment? En ai-je plus tiré un seul gémissement? Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, reste 200 vers. Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes? Oh là là, racine sur ma vie, c'est Arpembo. Voilà, alors ça va vous surprendre, mais finalement, je n'ai pas été repérée dans le métro. En revanche, je crois que j'ai inventé une super méthode anti-frotteur. Voilà. Non, finalement, ce sera sur Internet que mon agent me repérera. Elle m'a contactée en me disant « Bon, écoute, j'ai pas de profil comme le tien, il me faut une petite jeune de 20 ans, là. Cherche la nouvelle Emmanuelle Béard. Bon, avec toi, on sera plutôt sur Emmanuelle Blédard, mais enfin, pourquoi pas. T'as un agent ?» Elle fumait clope sur clope en caressant son chat toute la journée et en me montrant plein de photos d'actrices auxquelles je ne ressemblerai jamais. « Tiens, regarde-moi ça, Bérénice Bejo, sublime. T'as pensé à prendre un pseudo ? Béronice Bégère, c'est pas mal. Je rigole, ma cocotte. Ah, foutu pneumonie. » Parfois, je l'appelais, elle me disait « Oh là là, ma cocotte, mais tu m'appelles encore, mais j'ai pas le temps de te parler, là. J'ai le téléphone qui sonne depuis ce matin, 13h, ça n'arrête pas, je suis débordée. Non, mais t'imagines si tous mes comédiens faisaient comme toi à m'appeler sans cesse tous les 6 mois, on s'en sort plus. Bon, puis alors j'ai reçu tes nouvelles photos, là. Dis donc, t'en fais des caisses, hein, Juliette Sinoche. Mais c'est super, hein. Non, il y a une vraie cohérence, écoute. Bah oui, je sais pas si c'était tes minauderies, ce chemisier absurde ou ton mascara au Karcher, mais ça, c'est bien foutu. Il y a rien qui va avec rien. Alors pourquoi pas, hein. Après, pourquoi pas, écoute, les directeurs de casting, après tout, ils sont comme tout le monde, hein. Il y en a des myopes. Bon. Oh. Une fois, je lui ai même parlé de mon projet de faire de l'humour, d'essayer de faire rire les gens sur scène, quoi. Elle m'a dit « Quoi ? Oh, c'est marrant, moi, quand je te vois, je vois plus de la douleur que de la bonne humeur. Mais enfin, pourquoi pas ? Non, mais disons que t'aurais plutôt intérêt à viser du Kechiche que du Debuss, quoi. Ben bon, après, tu fais comme tu veux. »
C'est, hein, Chantal là-dessous.
Ou plutôt comme tu peux. Non, enfin, c'est clair. Non, ça aurait pu. Non, mais en moins sympa. Bon, enfin, quand même, j'ai envie de te dire, voilà, hein, Kechiche, Debuss, choisis bien ton maghrébin, hein. Disons qu'il y a des maghrébins et un maghrébin un peu moins bien, quoi. Je rigole, ma cocotte. Donc alors, tu veux faire de l'humour de gonzesse, c'est ça? Genre raconter tes galères avec les hommes? Bah, tu me diras, au moins t'as de la matière, hein. T'es un peu la nouvelle Emma Maquée, sauf que toi t'es jamais maquée, quoi. Tiens, note là celle-là, je te taquine, ma poule, t'es super. Et oui, ma cocotte, écoute, faut que t'aies confiance en toi un peu, hein. Bah oui, c'est pas parce que tu vas tout rater que ça va pas être top, hein. Puis moi je suis avec toi, je te soutiens, je t'accompagne. Hey, j'ai pas le temps de te parler, mais je t'embrasse, Capucine. Voilà, donc au final, le seul truc que j'ai décroché grâce à elle, eh bien, c'était mon téléphone. Sur ce, je vous laisse, je vais changer de chaussure parce que vraiment ça sert et je reviens vous accueillir en grande pompe.
Bravo Camille.
Quel est le nom de cet agent?
Camille.
Quel est le nom de cet agent?
Je peux pas balancer.
Ça pourrait être l'agent dans 10%, le rôle de Liliane Rovert.
Ouais, ça pourrait être ça, mais elle est sympa, Liliane Rovert, dans 10%.
Ouais. Non, elle était pas très sympa.
Camille, tu es sur scène?
Absolument, elle est sur scène les jeudis au point virgule. Hier, c'était génial.
Oui. Vous reconnaissez ce genre d'agent?
Bah oui, ça a été une autre époque. Hein. Elles sont quand même, elles ont moins de caractère dans le côté comme ça excentrique ou un peu des personnalités. On est plus dans les années.
Là, c'est méchant quand même. Là, c'est méchant.
Oui, mais maintenant elles sont
mais
plus.
Tout est à peu près vrai,
je trouve qu'elles ont, elles sont plus. On sent qu'elles viennent plus de la banque ou de sur les contrats que sur la personnalité un peu loufoque.
C'est boulot. Hein,
oui, voilà. Ouais. À l'époque, il y avait des natures.
Des personnages.
Ouais, des natures.
Vous en aviez partie. Ah oui. Dominique.
Enfin, moi, je parlais quand même pas comme de temps en temps, j'ai pu être très désagréable. Oui. Mais je disais pas une actrice, voilà, comme les termes qu'employait votre agent.
Vous avez déjà dû dire à une actrice, j'imagine, que si les rôles ne venaient plus, c'est que il y avait moins de désir. Comment on dit ce genre de choses? Parce que
déjà,
c'est douloureux quand même.
C'est compliqué, bien sûr, mais on est obligé de le dire. Et justement, c'est peut-être, généralement, on le dit lors d'un déjeuner. Et c'est pour ça qu'en 20 ans, on grossit de 15 kilos, parce qu'à chaque fois, on se dit comment je vais lui dire. On se reprend une coupe de champagne, on prend entrée, place et dessert. Et à un moment donné, en ce moment, c'est moins demandé, il y a un problème. Donc c'est maintenant, on passe moins de temps pour dire des gens. En fin de compte, c'est peut-être plus efficace. Moi, j'avais un problème un petit peu. J'étais toujours un petit peu. Comment dire? Je me sentais des fois responsable et culpable et coupable. Et en fin de compte, maintenant, ils sont moins responsables et moins coupables. Mmh. Et ça passe.
Plus coupable parce que vous avez l'impression, quoi, que vous ne l'aviez pas assez proposé, assez poussé l'artiste.
Parce que je me disais, peut-être que je n'ai pas assez fait, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Mmh. Et puis, il n'y avait pas les informations. l'information comme maintenant. Maintenant, c'est tout sur Internet. Ouais. Là, à l'époque, on allait sur le terrain, on appelait les assistants, les castings, voilà.
Alexis ?
Comment les gens arrivaient au métier d'agent, justement ?
Bah, à l'époque, c'était beaucoup d'anciens comédiens ou d'anciens journalistes. Olga Stick, qui s'occupait de Bardot, elle était une grande journaliste. Et puis, voilà, et quelquefois des avocats. Mais maintenant, un peu grâce à 10%, il y a plein de jeunes qui écrivent pour dire, moi, dans la rue, jamais, quand j'étais agent, on m'a arrêté pour dire comment on fait pour être agent. Ouais. Même ma famille pensait agent, ils ne savaient pas ce que c'était. Peut-être qu'il est agent d'entretien, peut-être qu'il est agent
de la paix,
agent de la poste. Tandis que maintenant, tout le monde sait.
Ça, c'est le miracle de la série. Le miracle 10%. On va s'intéresser maintenant, Dominique Besnard, à votre bande originale, à ce que vous écoutiez dans votre vie. On commence en 59.
Je t'appartiens. Si tu condamnes, je donne mon âme.
Pourquoi avoir choisi Becco ?
Parce que j'ai entendu Becco et Lino Renault par de ma mère. Hein. Et Becco, j'ai eu la chance de le connaître après. Et je me l'ai dit, en parlant de lui, maintenant, on va peut-être redire que c'est un des plus grands artistes du siècle dernier et qu'on ne l'entend jamais.
C'est vrai.
Il faut qu'il y ait des pubs. Je reviens te chercher.
Oui.
C'est pas une pub, je crois que c'est un truc pour le...
Pour le cinéma.
Hein, pour, non, non.
C'est pas pour retourner au cinéma.
Je me demande si c'était pas pour la Covid à un moment donné. Enfin, c'était un des plus grands chanteurs. Et je trouve, et j'ai eu la chance de le connaître.
Et comment on explique qu'il est tombé comme ça, pas dans les oubliettes, mais qu'on l'entend
plus trop. Le responsable, c'est aussi sa famille. Hein. Peut-être pas sa femme actuelle, qui est une femme formidable, ça, mais il a eu un fils qui est parti du reste depuis, qui a bloqué tout. Et nous, Marie-France Bruyère, qui a très bien connu Becco, quand elle a fait un documentaire sur Becco, le fils a tout fait pour pas qu'on ait les archives.
Oui.
C'est scandaleux. Alors lui, il a tué le père. N'empêche que quand on voit Dalida, quand on voit Dalida, ce qu'il fait
Orlando.
Pour sa sœur, et c'est important de ou même les enfants d'Assin, sans parler des enfants de Claude François. Et lui, et franchement, c'est vraiment
injuste. Ça sert à rien d'être une star si on n'a pas une descendance à la hauteur.
Ça a été énorme. Il a été énorme. C'était une énorme vedette. Il y avait Aznavour et lui, il était presque plus célèbre qu'Aznavour. Donc on l'entend jamais.
On est en 59. Vous écoutez Becco et surtout vous allez au cinéma. Vous êtes tout petit, vous avez 5 ans, Dominique. Et pour la première fois, le premier film en tout cas dont vous vous souvenez, c'est Babette s'en va en guerre.
Oui, avec Bardot.
Quand même. Francis Blanche, Bardot, Jacques Charrier.
Jacques Charrier, c'était surtout parce que peut-être Bardot, pour moi, c'était comme une Barbie. Enfin, on ne disait pas Barbie, un peu comme une poupée.
Ouais.
Parce qu'elle était sublime. Je n'ai peut-être pas tout compris à l'histoire, mais c'est vrai que c'était un des films. Babette s'en va en guerre, c'était un peu le... Vous savez, juste après, quelques années après la guerre, quand même, 10 ans après, enfin, plus que 10 ans, oui, 15 ans après, on traitait de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, déjà avec la comédie.
Oui.
Ce qui n'était pas gagné avant. On n'aurait jamais pu se permettre. Moi, je me souviens quand j'ai vu Le jour le plus long, qui s'était déroulé en Normandie, avec ma famille. On a attendu 2 heures pour pouvoir rentrer dans le cinéma, voir Le jour le plus long. C'était un événement parce que tout le monde voulait voir ce film qui parlait des événements.
On passe à l'année 68. Michel Delpech.
Parce que pour moi, c'est une des plus belles voix de la chanson française. J'ai toujours été fan de Michel Delpech. J'ai eu aussi l'occasion de le rencontrer. Et même avec Michel Drucker, sa famille, on l'a vraiment accompagné au bout. Et je trouve que c'est un grand, grand chanteur. Et il a des tubes. Il a des chansons absolument extraordinaires. Et même moins connues comme longue maladie, parce que derrière l'acteur, le chanteur de variété un peu au début Midinette, il y avait une souffrance, il y avait un désespoir et il y avait une émotion incroyable. Et je pense qu'il faut réécouter. Alors, moi, je conseille bon, les week-ends.
Quand même. On l'entend. Oui,
lui, on l'entend.
Pas, mais lui, on l'entend.
Oui, mais on l'entend, heureusement. Oui. Oui. Mais de temps en temps, on entend toujours les mêmes tubes.
Oui. Oui.
Mais réécoutons Longue Maladie, qui est une chanson extraordinaire.
Alors, en 68, il y a mai 68, bien sûr. Et puis, vous, Dominique, à cette période-là de votre vie, c'est le théâtre qui prend une place importante. Vous alliez beaucoup, beaucoup au théâtre. Ouais. Déjà, toujours dans cette envie de voir les acteurs, de les découvrir. Avec des allers-retours quand même entre la province et Paris. Est-ce que vous avez traversé un peu mai 68? Qu'est-ce que vous en avez vu de mai 68, vous?
Mai 68, j'avais 14 ans. Le souvenir que j'en ai, c'est que ma sœur faisait des études d'assistante sociale à Paris. Et on avait peur, avec mon père qui avait une ronde, on est monté à Paris rechercher ma sœur, parce qu'en disant, il va y avoir la révolution. Et donc, et quand on est arrivé à Paris, c'était complètement désert. On a eu peur et mes parents étaient très gaullistes, hein. Et on est revenu avec ma sœur, voilà. Donc la première fois que j'ai vu Paris, c'est dans une ronde, j'étais venu avant pour mes 10 ans, mais là où j'ai revu Paris pour aller chercher ma sœur, comme peut-être quand on voit l'Ukraine maintenant, on va se chercher, genre pour disant...
Oui, c'était le stress total.
Ah, on ne sait pas ce qui allait se passer. Voilà. Et c'est le théâtre comme spectateur, et puis aussi avec votre prof de français,
oui.
Michel Schoenfeld.
Michel Schoenfeld, c'est la personne qui m'a vraiment aidé, parce qu'elle a vu que c'était... Vous savez, les profs sont très importants, et elle m'a permis de déclore. Elle m'a permis d'amener la culture, d'aller au théâtre, de lire. Je faisais du théâtre avec elle, mais on faisait pas mon cul sur la commode, on jouait des pièces de
Sartre. Quel dommage. Voilà.
Moi j'aurais payé cher pour voir Dominique Bester dans mon cul sur la commode. Hein.
On a joué huis clos, on jouait des pièces assez. Même bon, Terlan, même. On était quand même assez littéraire. Mm. Et c'est vrai que cette femme m'a aimé, je la vois tout le temps. Hein. Elle est à Cannes maintenant, c'est une vieille dame. Mais c'est elle qui a fait que.
Vous êtes très fidèle.
Ouais, je trouve que c'est bien d'être fidèle.
Bien sûr.
Parce que je trouve que c'est difficile d'être fidèle à notre époque. Mm-hmm. C'est plus facile à mon époque. Mm-hmm. Il y a tellement de sollicitations, chercher le mot, donc voilà.
On passe à l'année 81. En 81, Dominique Besnéard, il y a un petit clin d'œil à Jean-Jacques Benex et à Diva.
Diva, parce que j'ai fait le casting de Diva. Et c'est vrai que Jean-Jacques Benex m'a permis de m'éclater en lui amenant des gens improbables, pas connus. Il me faisait une grande confiance. Et on a fait Diva, ce film qui a été un insuccès au départ. Et grâce au César, donc c'est même intéressant, on en parle déjà, il est devenu un énorme succès, presque un film de référence. Oui. Wilhelmina Viggin Fernandez, c'était cette diva qui chantait la Wally. Et c'est elle qui était la vedette de ce film. Et à l'époque, ce qui était bien quand on faisait du casting, on me demandait de chercher une diva. Donc moi, j'étais à l'opéra, on m'a reçu en me disant « Mais vous êtes qui? Qui est Benex ?» Il me disait « Faut éventuellement prendre une petite soliste en province. » Mais vous... Et en fait, quand j'ai vu que l'opéra, ils étaient engagés un an, deux ans avant.
Oui.
Et moi, j'arrivais à dire « Est-ce que cet été, elle pourrait tourner dans... ?» Et donc, mais il y a quand même un directeur de l'opéra, dont je ne me souviens plus le nom, qui était très fin et qui m'a dit « Il y a une fille formidable. » Qui est dans la bohème, qui est la remplaçante. Vous devriez la voir parce qu'elle est très belle et peut-être qu'elle acceptera. Et donc, elle a accepté et sa carrière a changé. Hein.
On passe à l'année 96. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles. Foule sentimentale.
C'est mon chanteur aussi préféré. Et j'ai eu la chance d'être son agent. le peut-être pas le meilleur agent, c'est moi, j'étais un très bon agent, mais lui, le plus mauvais client, il voulait jamais tourner.
Mais pourtant, c'est un bon comédien.
Mais très bien, mais je lui disais, écoute Dominique, on va déjeuner ensemble, tu vas me parler de toi, mais je veux pas tourner. Je lui dis, mais on te propose un rôle. Il dit, ouais. Et là, j'étais le revoir dans son dernier concert là-bas, dans le nord de Paris, dans le... Comment ça s'appelle?
Le Zénith?
Oui, mais pas dans le Zénith, dans le grand... je trouve plus l'endroit. Et j'ai adoré son dernier concert.
Le Dôme de Paris?
Non, pas le Dôme de Paris, en haut, la
Philharmonie.
La Philharmonie, voilà.
C'est juste à côté, en effet, du Zénith.
C'est extraordinaire, son concert. I'm 50, c'est une chanson extraordinaire.
Ouais.
Et moi, je l'aime beaucoup. Et à chaque fois que je le vois... J'ai l'impression de l'avoir quitté la veille. Il est d'une simplicité. Sa femme est une femme formidable. Et franchement, c'est le... Et alors lui, vous allez voir un concert. Il y a toutes les générations.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est le seul qui passe les générations.
Et en 96, vous êtes Louis XVI devant la caméra d'Edouard Molinaro, Beaumarchais, L'Insolent.
Oui, je l'ai fait Louis XVI trois fois.
Ouais.
Comme quoi, je l'ai fait aussi.
Vous avez une prédisposition?
Non, mais peut-être à l'époque.
Décapité.
Non. C'est autre chose.
Non, mais c'est vrai, je l'ai fait avec Emmanuel Béard dans Les Jupons de la Révolution pour Canal. Et là, franchement, je pense que.
On parle moins du Dominique Besnard comédien.
Bah oui, mais j'en ai fait, mais j'ai jamais non plus, à part À nos amours. J'ai fait quand même des grands films, mais surtout À nos amours. Et même cette scène merveilleuse avec Jean-Louis Trintignant dans le film d'Haneke, j'ai très, très belle scène, mais j'ai fait aussi des entrées, des sorties.
Oui.
Là, j'ai tourné avec Ozon dans Un crime, Le crime, je ne sais plus.
Avec Nadia Tereskevitch et Rebecca Marder, oui.
Et je fais mon rôle.
Et vous êtes heureux sur scène? Vous êtes heureux devant une caméra sur un plateau de cinéma? Est-ce
quelques
que c'est votre
jours,
endroit
quelques ouais. jours, mais après, je m'ennuierai assez facilement. Et puis, moi, le problème, c'est être acteur, c'est qu'on décide pour vous. Et moi, j'aime pas trop qu'on décide pour moi. Donc, j'aurais pas pu attendre le désir de quelqu'un pour m'engager. Et c'est vrai que Piala, quand il m'a engagé, je voulais pas le faire. Et heureusement que je l'ai fait. Que des gens m'ont conseillé de sauter, m'a dit, tu peux pas passer à côté de ça. Mais c'est vrai que... Voilà, et le fait d'être... J'aime bien choisir. J'aime bien être... Voilà.
Le cinéma, les actrices, nos actrices françaises, par Jean-Michel Parker, dont vous signez la préface, Dominique Besnard, aux éditions Herscher, avec de très belles photographies, vous avez raison de le rappeler, de Sam Levin, qui nous permet de voyager comme ça depuis les années 50.
Sam Levin était ukrainien.
D'accord, avec l'itinéraire de ces femmes, avec des interviews parfois exclusives en fin de chapitre, avec la filmographie résumée, le cinéma aujourd'hui forcément... complètement d'actualité avec la cérémonie des Césars. Et c'est Guillemette Audicino qui est avec nous. Bonjour Guillemette. On a envie de faire des petits câlins tellement on est content de vous voir.
Bonjour,
toujours. Ça va Guillemette?
Très bien.
Bon, alors je rappelle quand même un peu le pédigré de Guillemette Audicino. Tout le monde sait, chef cinéma, Télérama. Ouais. Elle est sur France Inter avec notre camarade Ali Rebéi dans Grain bien vous fasse.
Elle aime le cinéma. Quoi.
Elle fait plein de choses, l'ami du vendredi, l'ami de tous les jours. Voilà. Elle aime tout, elle aime le cinéma, notamment elle aime la bouffe aussi. Je vous entends en parler de temps en temps quand même.
Voilà, tout à fait.
Parlons de...
D'ailleurs, elle vient avec un casse-dalle.
J'ai deux, trois adresses de resto.
Alors, vous avez un point commun.
Ah oui.
Vous avez toutes les deux été dans le jury d'Angoulême.
Oh, on a été. Ah oui, on a
Exactement,
été.
Exactement, cher Dominique.
Et c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau de faire partie de ce jury d'Angoulême. Moi, j'ai passé.
C'est une façon de dire que tu aimerais te payer la prochaine fois.
Non, pas du tout. Moi, j'y reviens quand vous voulez. Je fais ce que vous voulez à Angoulême pour Dominique Besnard et ce festival.
C'est votre vie.
En plus, c'est chez moi, Angoulême. Donc, forcément, je ne suis pas objectif. Parlons des Césars, Guillemette. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces Césars 2023? On a évoqué peut-être déjà qu'il soit un peu regardé à la télévision, parce que c'est quand même.
ce serait quand même le minimum.
C'est une émission. Après, ouais. C'est aussi une émission. C'est pas qu'une cérémonie.
C'est censé être une émission grand public. C'est censé être cette expression, voilà, la grande fête du cinéma, la grande famille du cinéma. Alors bon, la famille du cinéma français est un petit peu
en berne.
Oui, et puis ça a subi des douleurs, des remises à niveau. Donc, est-ce que cette fois-ci, il y aura à la fois une belle teneur quand même politique, une espèce de, voilà, de noblesse, de squelette fort, et aussi de la fantaisie, de la légèreté, sans que ce soit amer. Parce que le problème, de plus en plus ces dernières années, c'est que quand, quels que soient les animateurs et tout ça, mais quand il y avait de l'humour, il y avait un peu d'amertume, ou un peu de nombrilisme. Enfin, là, il faudrait vraiment que ça redevienne cette espèce de spectacle très partageur.
Mais on a besoin d'une teneur politique, pourquoi pas juste de la légèreté ?
Mais la teneur politique peut être légère. Oui, on peut être sophistiqué et engagé.
Alors, il faut dire que cette année, cette édition, avant même qu'elle ait, elle ait commencé, il y avait déjà pas mal de polémiques, et pas des moindres. L'affaire Sofiane Benasseur, qui avait été prénominée dans la catégorie révélation masculine, ce qui a suscité une levée de bouclier. Il est dans le film Les Amandiers, qui est d'ailleurs en lice, qui est en compétition.
Oui, dans la catégorie meilleur film.
Meilleur film.
Donc mais Valéria Bruni Tedeschi n'est pas nommée en meilleure réalisatrice.
Alors, ça, c'est la deuxième polémique.
Ouais,
là.
Alors, ça, c'est absurde.
Ouais.
Parce qu'en plus, c'est un exemple parmi d'autres, mais
y a
les
pas
Amandiers...
de femmes réalisatrices. Oui. Qui,
aucune réalisatrice nommée. Mais donc, cette absurdité, cette espèce de drôle de hiatus. Les Amandiers est nommée comme meilleur film, mais donc sa réalisatrice n'est pas nommée comme éventuelle meilleure réalisation. Comme si Les Amandiers, qui est un pur film de mise en scène, en plus,
trop
de
malchance,
s'était réalisé tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Donc,
la Vierge Marie.
C'est complètement... c'est ridicule. Après, il y a aussi une loi dans les Césars qui est embêtante.
Guillemette, ces deux catégories, meilleur film, meilleur réalisateur, est-ce que c'est pas un peu bancal, déjà, juste sur le principe?
Si, d'autant que il y a une nouvelle loi qui fait que on peut pas voter à la fois pour le meilleur film et le réalisateur de ce film-là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, par exemple, un film le César du meilleur film, mais il faut que ce soit quelqu'un d'autre éventuellement qui ait la réalisation. Il ne peut pas y avoir, d'après ce que je sais des nouvelles lois, il ne peut pas y avoir les deux.
Donc, quand on est votant...
J'ai voté à la fois pour le réalisateur et pour le meilleur film.
Sauf qu'au final, si par exemple le réalisateur qui arrive premier dans les votes et aussi celui qui arrive dont premier. Le film arrive premier, eh bien on prendra le deuxième réalisateur.
Alors oui, c'est quand même
Dominique,
ce soir,
quand même.
Mais moi, j'ai voté.
Mais il faut lire les petits caractères.
Il faut que ce soit, parce que c'est ventilé. Alors, en même temps, bon, c'est, ça part d'un bon sentiment de ventiler un peu les prix pour que plusieurs personnes montent sur scène. Ouais. Il y a eu des années où c'était pratiquement toujours la même personne.
Oui.
Alors, pourquoi pas, mais on se souvient de cinéastes qui montaient 14 fois sur scène parce qu'ils avaient le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur après, décor, le meilleur truc.
Quand le film est très bon, alors soit on considère que c'est une cérémonie et on estime qu'on fait confiance aux votants et que leur enthousiasme se voit sur scène, soit on se dit qu'on va distribuer et faire plaisir à tout le monde. Et auquel cas, c'est encore un petit peu différent.
Ça, c'est un peu, du coup, ça devient un peu la kermesse.
Ben oui, c'est ça. Dominique, vous avez voté pour qui?
Je peux pas le dire quand même, parce qu'en plus il y a plein de films qui étaient Angoulême quand même. C'est là j'étais content.
Ben oui.
Me dire quand même, on est quand même dans le.
C'est vrai que dans la sélection,
Il y en a plein.
Et notamment la
nuit.
De Cannes,
par contre, la nuit. Oui, mais le festival de Cannes, t'es gentil, je parle du festival d'Angoulême.
Ah oui,
Et le festival d'Angoulême n'a pas l'âge et la notoriété.
Alors, c'est son territoire, attention.
Mais cela dit, il y a plein de films qui. Par exemple, le.
Qu'est-ce que vous préférez? Alors, si, par exemple.
Non, je peux pas dire. Mais par contre, il y a un film que je peux. Dont je peux parler, que j'aime beaucoup et je me suis battu. En plus, il a eu le prix de deux meilleures actrices et le prix du public à Angoulême. C'est Le Sixième Enfant. Et j'aime beaucoup ce film. Et j'ai voté pour ce film. Là, honnêtement, j'ai voté comme meilleur premier film. Parce qu'en plus, il y a eu deux actrices merveilleuses. C'est un premier film. Et en plus, vous savez, quand il y a le prix du public pour un film un peu d'auteur, ça fait vraiment
avec
plaisir.
Benjamin
c'est comme
Laverne.
La nuit du 12. La nuit du 12, il rassemble le public. Et les cinéphiles. Il n'y a rien de plus belle victoire que le rassembler les cinéphiles.
C'est vrai, succès d'estime, succès populaire.
Cette année, c'est ça aussi le problème, c'est qu'effectivement, ça manque de réalisatrices, ça c'est clair, c'est honteux, il y en a marre. N'empêche que tous les films qui sont nommés et tous les réalisateurs, ces messieurs qui sont nommés, le méritent aussi. Donc, preuve en est que, en fait, le cinéma français a tellement de films de qualité. Il n'y a pas assez de place. Il faudrait faire 10 nominations pour pouvoir mettre des mecs et des filles. Comme ça, il n'y aurait plus de problème. Mais c'est vrai que tous les films méritent leur place. La nuit du 12, L'innocent de Louis Garrel.
Bien sûr.
Qui lui aussi recueille tous les suffrages critiques et publics.
Encore de Clapiche, Novembre de Cédric Gimenez, Pacifiction d'Albert Serra.
Votre plus gros regret. C'est un peu le panel. C'est une merveille, Pacifiction.
C'est incroyable ce film. On ne peut pas dire qu'on en a beaucoup parlé.
Non.
Et ça veut dire qu'il y a donc ça veut dire que c'est clair qu'il y a pas de il y a pas d'urne.
Et moi je le souhaite à Benoît Magimel ce prix de toute façon cette année. Voilà, comme ça je dis.
Benoît Magimel l'a déjà eu l'année dernière, mais il y a peut-être une chance qu'il l'ait une deuxième fois parce qu'il est une espèce d'âme vibrante de Pacifiction. Après, vu que Denis Ménochet est nommé. Alors, il n'est pas nommé pour Asbestas.
Non, ouais, il a eu le Goya.
Il est nommé pour le film de François Ozon.
Et puis, il a eu le Goya, déjà.
Et il a eu le Goya, mais comme tout le monde, je pense, aurait aimé lui donner le prix pour Asbestas, il est possible qu'il l'ait pour le film de Ozon.
Vous voyez que ça ne veut plus rien dire, en fait. Ça veut dire qu'on récompense
si on
quelqu'un.
Tout ça.
Non, pas tant pour
oui,
le
mais
film.
Virginie Efira, elle l'aura aussi, parce que c'est Virginie Efira et qu'elle a fait deux films sublimes.
Quel film manque à l'appel, d'après vous?
Le film de Rebecca Zlotowski,
on
Les Enfants des Autres. Et c'est peut-être juste ce qui est absent totalement, qui n'a pas une seule nomination, c'est une honte.
Alors que Virginie Efira aurait pu être nommée
mais
pour
même,
son rôle.
Mais même, on peut contester, on vous parliez tout à l'heure du Petit Bedos, il n'a aucune nomination.
C'est vrai, Mascarade.
Et alors, il y a un film qui a quand même le plus gros succès de l'année, qui est très absent, parce qu'on
Simone.
Considère... C'est Simone. Et c'est vrai qu'Elsa Zimmerstein aurait pu y être. Et voilà. Vrai. Donc ça, c'est vrai aussi que, quelquefois... alors, peut-être qu'on considère qu'il a fait trop d'entrées, qu'il n'a pas besoin de ça.
Non,
c'est pas... Encore de Clapiche a fait énormément d'entrées.
Non, mais il met moins que l'autre. Il a 2,5 millions.
Il y a bien un César du public de la comédie. C'était quoi la catégorie? Une façon de permettre de récompenser d'autres films. Il n'y a pas une ouverture
là-dessus? Oui, alors ça, pendant un temps, il y a eu le César du public. Mais je crois que cette année, il a été...
C'est les années terdiantes, ça.
C'était les plus grosses entrées. C'était celui qui avait les
plus grosses entrées. Oui, mais ça sert à quoi? Parce que c'est comme si vous donniez le César en regardant le nombre d'entrées d'un film. Ça ne dit pas la satisfaction du public, ça.
Non, mais en même temps,
et puis ça manque de suspense.
On peut être aller voir un film et sortir déçu, donc
sauf
c'était ridicule.
Ils mettent en même temps, vu comment on vote, vraisemblablement, ça ne semble pas avoir beaucoup plus de sens non plus.
Après, la cérémonie des Césars, il faut être clair. De toute façon, la plupart des comédiens souhaitent la voir, et en même temps, s'ils sont nommés, une femme comme Fanny Ardant qui est nommée, qu'elle ait le César ou pas, même Virginie Efira qui l'aura peut-être, qu'elle l'ait ou pas.
Mais elle n'a jamais eu Virginie Efira, quand même. Ça serait normal qu'elle l'ait, franchement.
Ou Adèle Exarchopoulos, qui est très aimée dans la profession, qui chaque fois fait des performances absolument incroyables. En fait, ce qui compte plus que ça, c'est est-ce que ce spectacle va être réussi?
Oui.
Est-ce qu'elles auront des belles robes? Est-ce qu'à un moment, on va avoir une vision du cinéma français festif, glamour et un brin réconcilié?
Tout ce qu'on sait, Guillemette, c'est que c'est David Fincher cette année qui va recevoir le César d'honneur et que c'est Virginie Efira qui va le lui remettre. Donc déjà, elle sera au moins une fois sur scène, Virginie
Efira. Elle va monter sur l'estrade.
Voilà, on est contents.
Et elle a révisé toute la filmo de David Fincher pour faire un beau discours, donc je pense que ce sera chouette.
Et la présentation est une présentation collégiale cette année, chorale, avec Leïla Bekti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuel Devos, Léa Drucker, Eya Eda, Alex Lutz, Raphaël Persona et Ahmed Silla, voilà, ils sont assez nombreux pour essayer de dynamiter cette soirée.
C'est un joli casting.
Absolument. Et c'est Taha Rahim qui va présider cette cérémonie.
Donc c'est aussi un joli casting.
Non, puis je trouve que ça renouvelle en
et
tout cas.
Et ça rajeunit un petit peu.
Ça renouvelle.
Ça.
Et puis il n'y a pas l'humoriste un peu méchante qui règle ses comptes sur scène. Tant mieux.
Merci à vous, Guillemette. C'est toujours un plaisir de voir dans la bande originale. Et tout de suite, restez pour Alexis Rossignol.
La bienvenue. Bonjour à tous.
Salut. Coucou. Alexis.
Alors aujourd'hui, c'est vendredi.
Oui.
Qui dit vendredi dit
la story.
Et poisson.
Ah bon?
Et même les deux en même temps. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une histoire de poisson.
Oh,
un genre de Nemo, mais en plus dur quand même. Hein, j'ai même hésité à en parler. Puis c'est vrai qu'hier, à 22h48, je me suis dit, Alex, as-tu un plan B? Bon, ben la réponse était non. Alors tout commence sur Instagram, sur le profil de mon ami Patrick Puydebat, alias Nicolas dans Hélène et les garçons.
Ah oui.
Oui, vous vous souvenez de Nico, le beau gosse aux cheveux longs. Ben c'est mon pote.
Il était beau.
Ah, comment ça?
Oui, il est toujours très beau.
On partage.
Il est venu me voir en spectacle à Bruxelles l'année dernière et puis on se suit depuis sur les réseaux. Petit like de temps en temps, commentaire, amitié sincère. Enfin, s'il n'a pas oublié, c'est fragile l'amitié sur les réseaux. Je suis très pote avec Francis Cabrel aussi. J'ai hâte qu'il le sache. Bref, sur Instagram, ce monsieur que je connais pas, enfin pas tant que ça, a publié la photo d'un dauphin mutilé par des pêcheurs sur lequel étaient gravés au couteau les mots Sea Shepherd PD. Et j'ai pris l'habitude de ne pas juger les gens trop vite parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire, en bien comme en mal. Donc souvent, je me réunis et je réfléchis. Mais parfois, la réunion n'est pas longue quand même. Hein. Ordre du jour, les pêcheurs qui ont mutilé ce dauphin sont-ils des cons? Oui. Bon, ben la réunion est terminée. Un petit café, Alex? Oh, bah oui, pas de refus. Un petit sucre? Un petit peu, oui. Sea Shepherd PD. Pour ceux qui ne connaissent pas Sea Shepherd, c'est une ONG qui défend les océans et la biodiversité marine. Et PD, bon ben, l'insulte PD, elle dit beaucoup de choses quand même, hein, sur celui qui l'utilise. Qui manque de vocabulaire, pour commencer. C'est pas comme si on n'avait pas un large choix d'insultes dans la langue française. T'es anglais, bon, ben, t'as le choix entre fuck et fuck. Mais en France, tu vas pas me dire que pendant que tu écris Sea Shepherd sur le flanc d'un poisson, t'as plein de temps de penser à la suite et de trouver mieux, quoi. Là, ça fait insulte écrite à la va-vite derrière la porte des toilettes au collège. Mmh. Avec un 06 accompagné d'une proposition de contact buccal derrière le terrain de foot pour les plus libérés. Y a rien qui va, là. Ni le fond, ni la forme. PD, c'est vraiment rédhibitoire. Ça sert jamais à un propos, quoi. Dans J'accuse de Zola, par exemple, y a pas PD. Dans l'appel du 18 juin, il n'y a pas PD non plus. Je les ai relus quand même hier soir pour être sûr. Je me suis dit dans le doute. Hein. Je me suis dit, imagine si, paragraphe 8, ligne 5, j'accuse les PD au pouvoir. Non, mais heureusement, non, il n'y a pas. Alors un copain m'a dit que Sea Shepherd PD, ça faisait toujours moins de lettres que Sea Shepherd écolo de merde. Pas faux, c'est vrai. C'est peut-être aussi les résultats d'une étude scientifique, parce qu'il paraît que l'homosexualité est courante chez les dauphins, mais le support est pas bon. Hein, y a des revues scientifiques pour ça. Ou Arte, quoi. Le problème de la pêche au filet, moi je vais vous le dire, parce que je m'y connais un petit peu au niveau de la pêche au filet, c'est que les petits poissons peuvent s'échapper à travers les mailles, mais pas les gros. C'est le problème principal. Oui. Moi j'ai le problème inverse avec une passoire chez moi, qui est bien pour les pattes, mais pas pour le riz. Et à chaque fois, il y a des grains de riz qui passent à travers, qui finissent dans le lavabo. Voilà. Et hier, j'ai fait tomber un croque-monsieur par terre aussi, côté béchamel. Bon, ça n'a rien à voir, mais ça ne m'a pas amusé, quoi. Et ça ne doit pas les amuser non plus, les pêcheurs, de remonter des dauphins. Plus de 3500 quand même par an, c'est en énorme. Moyenne, dans le golfe de Gascogne. Mais voilà, c'est un fait, ça arrive, ça s'appelle des captures accidentelles. Voilà, les dauphins sont les victimes collatéraux de la pêche. Un peu comme quand il y a frites et choux de Bruxelles le même jour à la cantine. Eh ben moi, je regarde, les choux de Bruxelles, ça descend pas, ils en pâtissent. Hein. Et ils les jettent, c'est sûr. Hein. Voilà. Donc pêcher des dauphins par accident, ça fait pas des pêcheurs des criminels. Enfin, je crois. Mais par contre, graver quoi que ce soit au couteau sur un dauphin, bah, ça fait de toi un con, hein. Même un gros con. Hein. Je suis désolé, mais malgré la richesse du français, j'ai pas trouvé mieux. Quoi. Et ce midi, je boycotte le poisson.
Merci Alexis de Rossignol. En spectacle.
En spectacle, ce soir, il sera à Bordeaux, il va se dépêcher, il va partir maintenant. Il y a Nuel, les Aubiers.
Nuel.
J'y arriverai pas. Il sera aux Aubiers, le cas de Sèvres.
Et Tanguy Pastour est avec nous. Bonjour,
bonjour.
Tanguy.
Bonjour.
De quoi on parle tout à l'heure?
Mais je vais vous parler des migales. Elles remontent à cause du réchauffement. À Antibes, une dame en a trouvé une dans son oreille.
Restez avec nous jusqu'à 12h30 sur France Inter.
Anniversaire de sa naissance, retrouvez Colette plus vivante que jamais dans le livre « Un été avec Colette » d'Antoine Compagnon.
Un grand écrivain, c'est un écrivain après qui la langue n'est plus tout à fait la même.
Gourmande de la vie, amoureuse de la nature, cette romancière qui fut aussi artiste de cabaret insuffla au XXe siècle un vent de liberté.
Ça, mon enfant, ça sent la littérature pleine.
Un été avec Colette d'Antoine Compagnon, un livre France Inter.
France Inter, première radio de France.
Vous êtes bien sur Inter et il est midi. Les informations, Laetitia Gaillet.
Vladimir Poutine doit se sentir bien seul aujourd'hui, le jour anniversaire de l'invasion russe. Les déclarations de soutien à l'Ukraine viennent de toutes parts, contre la Russie et donc pour le soutien à Kiev. Au milieu se trouve la Chine qui, elle, appelle les deux pays à dialoguer pour trouver une issue pacifique au conflit. Pékin le dit dans un document sur le site de son ministère des Affaires étrangères, tout en rejetant le recours à l'arme nucléaire qui a été brandi encore cette semaine par le président russe. La Chine veut donc jouer un rôle, mais elle n'a pas beaucoup de crédibilité vis-à-vis de l'Ukraine, selon le patron de l'OTAN aujourd'hui, Jens Stoltenberg. Une chose est sûre, ce conflit aura permis de révéler un homme, Volodymyr Zelensky. Tout le monde jusqu'à Joe Biden est venu le voir à Kiev. Lui s'est déplacé aussi. Toujours la même tenue militaire. Le président ukrainien, par ses mots, est devenu l'icône de son pays. Et il a publié une nouvelle vidéo ce matin. Omar Waman est à Kiev pour France Inter.
C'est dans une vidéo d'un peu plus d'une minute diffusée sur les réseaux sociaux que Volodymyr Zelensky s'est adressé aux Ukrainiens dès les premières heures de la journée. Il décrit une année de douleur, de chagrin, mais aussi de foi et d'unité. Il est revenu sur ceux par millions qui ont fait le choix de rester en Ukraine au tout début début de l'invasion, un choix pour le drapeau bleu et jaune. La victoire, il l'espère cette année 2023, avant de rendre hommage à des villes ukrainiennes, théâtre d'atrocités imputées aux forces russes. Boutcha, Irpin, Kherson ou Mariupol, des villes qualifiées de capitales de l'invincibilité. L'Ukraine ne s'arrêtera pas tant que les meurtriers russes ne seront pas punis, a déclaré le président ukrainien avant de se rendre sur la place Sainte-Sophie à Kiev, où il a prononcé un discours devant les forces armées et à qui il a remis des récompenses, dont certaines à titre posthume.
Omar Waman, la guerre en Ukraine, journée spéciale sur France Inter avec des reportages à l'antenne, des dossiers sur le site et des éditions spéciales. D'ailleurs, dans la deuxième partie du 13-14 tout à l'heure, on parlera de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. 115 000 personnes, dont 80% de femmes. 5 invités pour raconter comment ça se passe entre 13h30 et 14h. Delphine Rouillot de France Terre d'Asile, Bertrand Cosson, fondateur de la Maison de l'Ukraine, Anya, réfugiée ukrainienne, et deux familles d'accueil à Marseille et Dunkerque. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'onglet réagir de l'appli France Inter. Un message de soutien à l'Ukraine ce matin, et puis Emmanuel Macron s'est invité à la table du dossier Corse au ministère de l'Intérieur. Troisième réunion ce matin sur l'avenir institutionnel de l'île de Beauté. Pas de sujet tabou, a dit le chef de l'État, qui a quand même rappelé deux lignes rouges. La Corse doit rester dans la République et pas question de créer deux catégories de citoyens. Tout le monde ne sera pas d'accord à 200%, dit-il, mais chacun doit dépasser ses réticences. Emmanuel Macron se dit prêt à recevoir avant l'été les propositions de travail des élus corses. Il y aura ensuite des consultations à l'Assemblée et au Sénat. L'Italie réclame son extradition, mais la justice française n'est pas de cet avis. À Lyon, la cour d'appel se penche depuis ce matin sur le dossier de Vincenzo Vecchi. Il s'agit de cet altermondialiste italien réfugié en France après avoir été condamné dans son pays pour des violences commises lors du G8 de Gênes en 2001. À deux reprises déjà, les cours d'appel d'Angers et de Rennes ont refusé d'exécuter le mandat d'arrêt européen. À Lyon, on prend les mêmes et on recommence avec des soutiens de poids en plus. Le reportage de Christophe Vincent.
Pour la justice italienne, Vincenzo Vecchi était un activiste anarchiste assimilé au Black Bloc, un meneur parmi 300 000 manifestants photographiés près d'une banque et d'une voiture dégradée et accusé d'avoir volé deux planches sur un chantier pour construire une barricade. D'où sa condamnation par contumace à 10 ans de prison pour avoir enfreint la loi dévastation et pillage adoptée sous Mussolini. Elle réprime la participation ou le simple concours moral à un trouble majeur à l'ordre public. Absurde et disproportionné, estime l'ancienne juge et députée européenne Eva Joly, membre du comité de soutien.
10 ans, c'est une peine criminelle. Les dégradations pour les gilets jaunes à l'Arc de Triomphe, le peine maximum était 8 mois avec sursis. Et beaucoup ont pris que des heures de travaux d'intérêt général. Cela serait une horrible injustice que de livrer Vincenzo Vecchio à l'Italie.
La cour d'appel dira si Vecchi doit aller purger sa peine en Italie. Sinon, il restera en Bretagne, sa terre d'accueil, où il mène une vie tranquille. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
À Bordeaux, 8 hommes appartenant au groupuscule d'extrême droite Bordeaux nationaliste ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à des violences dans un quartier de la ville de Bordeaux. C'était au mois de juin dernier. Le groupuscule lui a été dissous début février. Un mot du Livre Inter. On attend vos candidatures pour devenir jury du Livre Inter, présidé cette année par David Fuenquinos. Vous avez jusqu'au 6 mars. L'aventure est belle. Allez-y et surtout, osez nous dire qui vous êtes par rapport au livre. Le site Internet d'Inter est ouvert pour les candidatures. Et si vous voulez faire un peu côté vintage par courrier, eh bien Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Et promis, on vous lira parce qu'on lit toutes les lettres. 12h05 sur Inter.
Franceinter.fr présente
Blockbuster, le podcast des passionnés passionnants sur la culture qui cartonne.
Frédéric Sigrist,
Starmania. L'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon est de retour dans une mise en scène de Thomas Joly. Partout où il se joue, les salles affichent complet.
Quand on arrive en vie.
Visionnaire, politique, objet de culte pour certains, Starmania est aussi et avant tout un pan entier de l'histoire et du succès de la chanson francophone.
Blockbuster.
À écouter, à télécharger sur franceinter.fr.
Et sur l'appli Radio France.
France Inter, partenaire du film The Fabelmans.
Movies are dreams that you never forget.
Une histoire inspirée de l'enfance du cinéaste Steven Spielberg, un jeune Américain qui rêve de faire des films et grandit dans une famille unie jusqu'au moment où elle ne le sera plus.
I don't know what to do anymore.
You do what your heart says you have to.
The Fabelmans de Steven Spielberg, Golden Globe du meilleur réalisateur et du meilleur film, 7 nominations aux Oscars, actuellement au cinéma, un film France Inter.
y a une deuxième partie dans la bande originale. Et figurez-vous que c'est maintenant. Et c'est avec Leïla Kaddour.
Merci Laetitia Gaillet. Vous serez de retour tout l'après-midi sur France Inter. Prochain rendez-vous d'information avec le journal de
13h.
Il était chaud celui-là. C'est le retour de la bande originale avec Camille Lavabre, avec Tristan Lopin, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau. Et là aussi, Daniel Morin, bien entendu. Et notre invité, une ovation pour Dominique Besnéard. Dominique qui vient avec une actualité très chargée. Le livre, cette somme, Nos actrices françaises aux éditions Herscher, 30 portraits de comédiennes avec des interviews, avec les textes de Jean-Michel Parker qui expliquent un peu leur carrière, leur destinée, leur moments de gloire, les moments parfois un peu sans, parce que c'est aussi ça, une carrière au cinéma. Vous signez la préface de ce très beau bouquin. C'est un très bel ouvrage, très bien documenté.
En plus de faire la préface, c'est vraiment moi qui me suis battu pour que ça se fasse, parce que Jean-Michel, il est tellement plongé dans la vision de ses films qu'il ne sait pas vraiment se vendre. Et donc, je l'ai pris sous la main et je lui... Voilà. Et donc, je suis un peu en plus le parrain de ce livre.
Alors, un livre qui est bien né. Anouk Aimée, Françoise Arnoux, Stéphane Audran, Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dany Carrel, Mylène de Mongeau, Nathalie Delon aussi, Mireille Darc. Ah, Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, Marie Dubois, Brigitte Fossé, Françoise Fabian. Les photos de Françoise Fabian sont magnifiques aussi. Hein. Marlène Jobert, bien entendu, Annie Girardot, Bernadette Lafont, Anna Karina, Michel Mercier, Jeanne Moreau, Marie-Josée Natte, Pascal Petit, Bulogier, Romy Schneider, Marie-France Pizier, Dominique Sanda, Dany Saval, Delphine Seyrig, et puis Simone Signoret et Marina Vladi. Pour ces 30 comédiennes, laquelle faut-il découvrir de toute urgence si on ne la connaît pas assez bien ?
J'espère que... Il y en a qui sont des icônes, comme Anna Karina, elle est devenue une icône, même si elle n'a jamais été une actrice populaire. Ben, je ne sais pas, par exemple, c'est vrai qu'on ne parle plus jamais de Dany Saval.
C'est vrai.
Vous savez, Dany Saval, elle avait un ton, elle a fait carrière Hollywood quand même. Hein. Et on la considère plus comme femme de Michel Drucker et s'occuper des animaux, mais c'était une actrice qui avait une tonalité, un ton, une exubérance. Et voilà, ben, peut-être lire Dany, puis Marina Vladi. Non, ben, franchement, c'est...
Vous ne pouvez pas choisir, vous.
Non, je ne peux pas choisir.
Il n'y en a que 30.
C'est impossible. Impossible.
Il suffit d'en lire une tous les soirs, une biographie tous les soirs.
Et puis
on peut rêver en plus.
Il y a des destinées quand même un peu tristes. Je pense à Michel Mercier, que moi, la première, j'associe nécessairement à Angélique parce que c'est une saga qui m'a marquée quand j'étais enfant.
Ça a remercié, ça a plu à tout le monde. La preuve, c'est que.
C'est un grand classique, Angélique.
Oui, mais Michel Mercier, après, elle a, je sais pas, on me dit qu'elle a, à un moment donné, elle a eu un peu la grosse tête. Et vous savez, il faut faire attention quand même. Donc moi, je sais pas, avec moi, elle a toujours été charmante, mais à un moment donné, elle a été aussi prisonnière d'un rôle.
C'est vrai.
C'est que certains cinéastes devaient dire... Parce qu'elle a quand même tourné avant des films importants. Elle avait tourné avec De Ré, un film formidable. Un film avait... C'était les débuts de Rochefort. Voilà. Et là, mais faire... C'est faire comme une série télé. Série télé, à l'époque, Véronique Jeunesse, elle faisait rien d'autre. Eh bien, à l'époque, c'était un personnage qu'on n'imaginait pas dans autre chose. Et elle est allée tourner aux États-Unis, en Italie. Mais voilà, c'est à l'époque, elle a été prisonnière de son personnage.
Et Marie-France Pizier, qui est une grande comédienne, qui elle aussi, me semble-t-il, n'a pas complètement traversé non plus facilement les époques.
Oui, mais après, elle est devenue metteur en scène. Elle a fait des très jolis films. Et puis, elle était écrivain. Et puis, Marie-France, elle était alors voilà une femme engagée. Elle était engagée très très politiquement. Alors peut-être qu'elle on lui a fait subir. Mais Marie-France, elle a quand même travaillé avec des grands cinéastes, avec Téchiné. Elle a fait Cousin Cousine avec Marie-Christine Barrault. Non, elle a fait des choses.
Alors voilà, parmi ces comédiennes que vous aimez tant, vous avez déjà consacré un documentaire à Françoise Fabian. Là,
sur Françoise Fabian, sur Mylène de Mongeau qui est partie. J'adore faire des documentaires sur des actrices. pas... Bon, Marlène Jobert, je suis très intime avec elle, mais pas quand je la connais trop. Oui. Parce qu'on n'ose pas poser des questions un peu
difficiles. Il faut cette distance. Oui.
Et du reste, Marlène Jobert, elle a pas... Elle a, voilà, on n'a pris que des archives, et c'est moi qui fais la voix off, parce qu'elle m'aurait dit, non, tu mets pas ça. Déjà, au montage, elle voulait voir le montage, j'ai dit, non, tu verras pas le montage, tu verras le film terminé, parce qu'elle va commencer à me dire... Elle a quand même une ascendance sur moi, à me dire, oui, donc j'ai dit non.
Vous êtes sous emprise de Marlène Jobert. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est un documentaire qui est riche en archives, où on voit Marlène Jobert, voilà, dans une manière aussi de mener les interviews, de répondre aux questions, parfois aussi d'être dans une posture de, sans être péjorative, hein, de femme qui minaudait un petit peu face à certains journalistes. Il y a des petites séquences comme ça où on sent que le journaliste a une forme de supériorité, le journaliste mâle, sur la petite comédienne. Et que la petite comédienne le regarde en plissant un peu les yeux et en souriant pour essayer d'être un peu plus cajoleuse.
Mais cela dit, on voit l'assurance avec la
avec
vie.
Le temps. Et avec le temps, on
au
sent
début,
que...
Au début, elle est un peu comme ça, puis ouais. Après, bon.
Et on sent très vite qu'ensuite, Marlène Jobert, faut pas trop marcher sur son territoire. Voilà. Sinon, attention, danger. Donc, on continue de parler de ces actrices françaises, de ce documentaire sur Marlène Jobert. Et surtout, il y a Tanguy Pastureau tout de suite. Salut Tanguy.
Alors aujourd'hui, je vais parler animaux, ça va faire écho au dauphin d'Alexis le Rossignol. Enfin, le dauphin d'Alexis. Dit comme ça, ça pourrait laisser croire qu'Alexis a un dauphin personnel qui nage dans sa piscine de sa villa de Dubaï, où il vit avec une influence string de 19 ans. Donc non, Alexis a du succès, mais il faut pas exagérer. Il a fait une cigale à Paris, c'est pas non plus Beyoncé, quoi. Hein, on y était tous d'ailleurs. Daniel, Camille, Jean-Baptiste, notre rédac chef, moi, Tristan Lopin, non, parce qu'il déteste Alexis. Voilà. Non, c'est pas vrai, mais j'essaie d'installer une ambiance tendue dans les pour faire ressortir le meilleur de chacun. Ouais. École Maurice Piala. Hein, Morin, vieille ordure, t'as dit quoi sur les femmes maghrébines? Voilà, laissons infuser. Hein. Donc, je vais parler de la faune, plus précisément des migales. Alors, je vais raconter une anecdote, mais non, j'ai pas adhéré au Parti Socialiste, j'ai la même vie que tout le monde. Non, enfin, presque. Puisqu'il y a 3 semaines, mon attaché de presse, une dame frappadingue mais très sympa, une attachée de presse, quoi, m'appelle et me dit, tu es le meilleur artiste dont je m'occupe, un dieu vivant. Je réponds, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Et elle me dit, tu as une proposition pour faire Fort Boyard. C'est véridique. Voilà, donc là, je me mets à pleurer. Parce que Fort Boyard, c'est l'émission des stars dont on se souvient jamais vraiment qui c'est. Hein, même elle, au moment de se présenter, disent « Alors, je crois que j'ai fait Miss France en 2015, mais il faudrait que Passepartout vérifie sur Internet. » Seulement, en plein océan, ça capte pas. Hein, Passepartout ne sait même pas que Jacques Chirac est mort. La prod le paye en francs. On lui demande son sketch préféré, il répond « Le scrap de Pierre Palmade. Un mec, sa carrière s'arrêtera jamais, il dit. » Bon, quand on fait Fort Boyard, c'est que sa carrière a foiré. Hein. Le père Fouras en face de lui, il a rarement Brad Pitt. Hein, son quotidien, c'est Alex Good en short, qui lui fait des jeux de mots pourris. Hein, parfois, il saute de la vigie, désespéré pour se donner la mort. On en est au 14e père Fouras. Hein, l'actuel, c'est Pedro, un philippin de 14 ans, qui le reste du temps est enfermé dans une geôle. Hein, en repas, il a droit à une souris et 2 sauterelles par jour. Alors bon, je dois être honnête, voilà, j'étais tenté, mais on m'a dit que l'argent récolté allait à une association, donc j'ai dit non. Non, on est en période de crise, excusez-moi de penser à moi. Je veux dire, c'est ce que j'ai expliqué à la dame qui, près de chez moi, fait la manche devant la pâtisserie. Je lui ai dit, enfin, le trottoir, il a pas pris plus 50% en un an. Quoi. Enfin, elle me répond, j'ai faim. Alors, je suis quand même pas déconnecté. Je lui ai dit, mais arrêtez avec ces histoires de summer buddy. Enfin, mangez, quoi. Mais la dictature de l'apparence, faut arrêter avec Instagram. Non, en fait, si j'ai refusé Fort Boyard, c'est parce que j'ai peur des migales. Voilà. J'ai peur des nains aussi. Mais pour me rassurer, j'essaie de me dire que ce sont des gens comme les autres. J'ai fait ça avec les juifs. Ça a marché.
Oh là là.
Mais les migales, ça me terrifie. Pourquoi pensez-vous que je prends mes vacances en Islande? Pour le plaisir de faire un pique-nique dans la nature et d'un coup d'être projeté à 15 mètres de haut par un geyser qui me rentre dans les fesses? Avec cette impression d'être un Renault Kangoo à l'éléphant bleu? Hein, quand un type trop pressé te bâcle parce qu'il a pas envie de mettre plus de 2 euros dans le lavage? Non. J'y vais parce qu'en Islande, il n'y a pas de migales. Et cette semaine, j'ai lu un article qui m'a fait hurler de terreur. Mon cri a ressemblait à celui de Jordan Bardella quand, à la fin d'une crise de somnambulisme, il se réveille dans un bar à chicha. Le titre de l'article, Antibes, une migale entre dans l'oreille d'une sexagénaire. Parce que la migale, le moindre orifice, elle ciblotit. Oh. Ah, il vaut mieux pas faire de soirée camsex juste à côté du vivarium du petit neveu. Hein, j'ai un ami qui s'est pas mal gratté enfant pendant sa varicelle, qui à un moment avait 30 migales dans les trous.
Oh,
et des abeilles. Hein, il s'est pas que c'est avec un apiculteur qui a fait du miel sur son visage. Alors je vous raconte l'histoire. La fille de cette dame un jour lui dit, maman, tu as une araignée sur ta joue.
joue. La phrase que moi, je redoute le plus d'entendre à égalité avec « Bonjour, c'est Europe 1. Pour la saison prochaine, on vous propose 20 000 euros par mois, parce que je sais que je dirais oui. » La sexagénaire dit à Nice Matin, je cite, « D'un revers de main, j'ai alors poussé la bestiole qui s'est réfugiée aussitôt dans l'orifice le plus proche, mon oreille. » Ah, bah oui, mais il faut avoir des mœurs plus libérales, madame, pour que la bête ait le choix entre plusieurs orifices. Et le temps de l'hésitation, clac, on lui met un coup de tongue. Je rappelle que ça se passe à Antibes. C'est la Mecque de la tongue. Là-bas, 50% des habitants sont des fétichistes des pieds à la retraite. Et là, l'araignée se met à lui piquer l'oreille. La femme a mal au tympan. Elle crie, ça me fait la même chose que quand Ariel Dombal vient chanter à la télé. Bon, elle file à l'hôpital. Alors, je sais pas comment les médecins font. Hein, je pense qu'ils crient, oh, je viens de voir Spider-Man monter sur la façade. L'araignée sort en disant, oh, je suis trop fan. Hein, et paf, on la capture. Et là, ils réalisent qu'elle est noire et poilue, ce qui arrive à des gens très bien. Mais que c'est une migale de moins d'un centimètre, une mini-migale, ça existe, mais comme c'est petit, on le sait pas beaucoup. Si ça se trouve, il y a aussi des mini-rhinocéros. Un jour, ça vous gratouille dans le t-shirt, vous regardez, la bête a coincé sa corne dans votre piercing de nombril. Ensuite, elle est poursuivie sur votre ventre par des mini-braconniers. Voilà. Hein, et le pire, c'est que tout ça, je l'ai écrit sobre. Hein. Voilà, donc je demande un internement préventif. Alors, cette migale est aussi appelée migale d'Andalousie, parce qu'elle en vient. Alors, souvent, les noms, c'est tout con, hein, et ça permet de se rassurer. L'étrangleur de Boston en 62, si vous habitiez Reims, vous pouviez vous dire, ça va, hein, viens donc me chercher, mec. Enfin, vous faisiez le fanfaron, quoi. Sauf que la migale d'Andalousie, à cause du réchauffement climatique, remonte. Anne Hidalgo avait déjà fait ça. Elle était d'Andalousie. Si bien que mon histoire de pas faire Fort Boyard à cause des migales, c'est complètement idiot, puisque dans 3-4 ans maximum, on en aura tous plein les oreilles. Eh ben, c'est encore raté. Fini cette carrière. Voilà, au revoir.
Bravo, Tanguy.
Oh, Andalou.
L'Andalou survolté. Oui. Dominique Besnéard, nos actrices françaises. Signé Jean-Michel Parker, un livre que vous avez initié, dont vous signez la préface aux éditions Herscher, avec ses portraits de femmes. Je sais que vous ne pouvez pas choisir l'une d'entre elles. C'est impossible pour vous, tellement vous les aimez. Peut-être Marlène Jobert, quand même, dans votre cœur, qui est un
peu
en pole position.
Moi, j'aime beaucoup Françoise Fabian aussi.
Hein. Oui.
Et celle que vous n'aimez pas.
Non. En fait...
Bah, celles que j'aime pas,
elles sont pas dans le livre. Parce que finalement, c'est vous, avec ce livre, qui opérez aussi celles dont on va se souvenir, finalement, en les choisissant.
Bien sûr. Mais cela dit, il y en a qui... Il y a quand même Simone Signoret, on s'en souvient, heureusement. Mais on se souvient de la Dani Carrel, on s'en souvient pas. Et pourtant, elle a été énormément une vedette. Et Françoise Arnoul et Mylène de Mongeau. Mylène de Mongeau, elle était parce qu'elle avait refait. Le problème, c'est qu'il faut continuer à faire des films. Et Mylène, elle avait fait des films. Elle est dans les
campings,
dans les campings. Voilà. Donc.
Dans les moments difficiles pour ces actrices, c'est quoi? C'est vieillir?
Je pense que c'est très difficile déjà pour une femme de vieillir, mais je pense que pour une actrice, beaucoup plus.
Parce que chez les hommes, on voit pas dans les carrières
des moments
aussi
cabossés. Non, parce qu'on a toujours dit, Robert Redford, on dit, oh là là, il a des belles tempes grises, il a des belles rides. Et Jane Fonda, on dit, oh là là, là, c'est quand même, ça devient compliqué, son 10e lifting. Donc c'est un peu dur sur les femmes. Mais moi, quand j'étais agent, même si c'est des femmes pas si âgées que ça, c'est compliqué, les premiers rushs. Quand on voit les scènes qu'on a tournées, c'est toujours moi j'y allais tout le temps, c'est toujours le côté critique un peu. Elle disait oui, l'opérateur, il a pas compris, il m'a pas compris, peu compliqué. Mais maintenant, enfin dire maintenant, on peut faire.
On peut traiter l'image.
Oui, mais il ne faut pas trop la traiter non plus.
Mais parfois, on la traite énormément.
On l'a tellement traité qu'il n'y a plus d'expression. Il faut faire attention quand même.
Traiter l'image, ça correspond à essayer de lisser un peu les traits du visage.
Regardez-vous, Leïla, vous êtes une très belle femme. Quand vous faites le journal télévisé, vous avez envie d'être magnifique. Même si vous annoncez l'information.
Oui.
On a envie quand même.
Moi, j'ai adoré Leïla sur le séisme en Turquie.
Oui, c'est ça, formidable. Voilà. Non. Ouais, non, l'objectif, ce n'est pas d'être bon pour un journal.
D'être au moins ce qu'on est.
Alors, d'être au plus proche de qui on est dans la vie. Et ça, c'est
quelquefois, les actrices...
D'être propre, déjà, ce serait bien.
Mais c'est parce qu'on ne se voit pas vraiment.
Oui, parce que c'est une époque, maintenant, où on s'occupe plus du décor, de l'ambiance, de l'univers, que des visages.
Ouais.
Et quelquefois, là, elles ont raison. Elles ont raison d'être, de se dire, attendez, je ne vais pas être moins jolie que dans la vie. Voilà.
Et ben, moi, on dit souvent ça, que je suis mieux dans la vie qu'à la télé.
Non,
voilà,
non.
Notre tour plus tard. D'autres événements, à part la sortie de ce livre dans l'actualité culturelle. Quel film culte du cinéma français, ça va vous étonner, va être adapté en comédie musicale en 2024?
La Grande Vadrouille.
Non, Starmania.
C'est marrant tous les
Starmania.
Deux. Starmania. Non, c'est alors.
La gloire de mon père.
C'est un film. Alors voilà, vous citez que des films un peu comme ça.
C'est une comédie. Camping 3.
C'est pas une comédie.
Ah, c'est pas une comédie.
C'est un film qui est sorti il y a 28 ans au cinéma.
Le Grand Bleu.
Non.
L'Ours.
Indice musical.
Ah, c'est La Haine. La Haine.
Absolument. La Haine. La Haine va être adaptée,
ah ouais.
Absolument, en comédie musicale, à la scène musicale en 2024. L'idée, c'est de l'adapter de manière un peu live, en interagissant avec un spectacle visuel. Ils vont pas en faire une comédie musicale traditionnelle, il va y avoir forcément de la musique du rap, et pas que, vraisemblablement. Est-ce que vous avez...
Mais Starmania, il en est question, hein, depuis longtemps. Il y a toujours eu des problèmes entre les héritiers de Michel Berger et Plamondon. Plamondon, il tient vraiment. Et je crois qu'à suite à la comédie musicale, qui est quand même la plus belle chose que j'ai vue depuis longtemps, c'était magnifique. J'espère que vous l'avez vu, Starmania.
Ouais. Pas encore. Ça revient en novembre.
C'est extraordinaire.
Voilà. Et là, c'est le chemin inverse, c'est d'aller de la comédie musicale au film.
Voilà.
C'est ça. Là, c'est du film à la comédie musicale. À part Starmania, justement, que vous avez vu récemment, vous êtes preneur des comédies musicales en général.
J'ai vu Al Capone. Il y a des choses bien, des choses moins
avec
bien.
Avec Roberto Alagna.
Oui, Roberto Alagna et sur qui est très
Angoun.
Angoun et le Bruno Pelletier. Absolument. Que j'avais complètement oublié, qui est donc voilà. Donc
de Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame de Paris, en tout cas, c'est une des voix. Vous savez, à un moment donné, vous êtes trop jeune, mais il y avait tous les chanteurs québécois qui venaient, ils avaient tous des voix. À un moment, ils ont pris le marché. Hein. Ouais. Alors, il y avait la meilleure, Céline Dion, mais il y avait toutes celles qui étaient moins bien. Et tous les chanteurs. Et on a eu, pendant des années, j'ai dit, non, c'est plus possible, c'est québécoise.
C'est sympa pour Natacha Saint-Pierre.
Elle a compris, elle a arrêté de chanter. Et Linda,
qu'est-ce que vous voyez au théâtre?
Je vais voir La Mouette dans la mise en scène de Brigitte Jacques. J'adore ce qu'elle fait, Brigitte Jacques. J'ai jamais vu un Phèdre aussi beau qu'elle, que le sien.
Autre question, pourquoi allons-nous parler du film Love Again qui sort le 7 juin prochain?
C'est avec Céline Dion.
Oh, waouh, bravo! C'est un film dans lequel Céline Dion va jouer son propre rôle. Une comédie romantique.
On a hâte. Non, ça n'a pas l'air fou. Hein.
Non, le pitch n'a pas l'air complètement fou, mais il faut laisser sa chance au produit. Il faut attendre de juger sur pièce, voir ce que ça va donner éventuellement, je ne sais pas, à l'écran. Est-ce qu'il y a une chanteuse que vous verriez bien se mettre au cinéma? Vous qui avez l'œil, vous qui avez passé une partie de votre vie
Angèle,
à repérer.
Angèle, bien sûr.
Elle a déjà un peu joué dans
Astérix.
Un petit apparition.
Enfin, moi, je n'ai pas vu Astérix, mais Angèle.
Allez-y.
Sinon, j'ai... j'attends un peu. Hein.
Je comprends.
Et par contre, non, moi j'aime beaucoup Juliette Armanet.
Oui, moi aussi.
Juliette Armanet était comédienne. Moi, je l'ai connue au théâtre. Hein. Elle l'oublie, elle l'annonce pas vraiment. Moi, j'ai vu au théâtre La Bruyère dans un petit rôle il y a quelques années. Et j'aime beaucoup Juliette Armanet, moi.
Donc, on mise sur Juliette Armanet à l'avenir et je crois qu'elle a envie de faire du cinéma.
Ouais, bien sûr.
Elle a envie. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines semaines pour vous, Dominique Besnéard, du côté de 10% notamment? Je crois qu'il y a un peu de nouveau.
Alors.
Je tease, attention, une annonce. Je tease.
Oui, je sais, on
a compris. J'ai fait un teaser, quoi.
Donc, on écrit un film, un long métrage.
Ouais.
Parce que c'est trop compliqué. D'abord, ils sont tous pris, grâce à 10%, tant mieux.
Hein. Ils travaillent tous beaucoup.
Et donc, on va faire un long métrage. Comme Dampton Abbey, ils ont fait un long métrage. Mmh. Et puis, sinon, je préparais une nouvelle série qui s'appelle Ça, c'est Paris, qui parle du milieu d'un cabaret, qui était le cabaret à côté d'Art Média. Mais je ne peux pas le citer parce que dès que je le cite, personne ne veut pas ce qu'on n'a pas, on s'est pas entendu. Mais c'est un cabaret avenue Georges V, vous le trouverez vous-même. comme j'ai quand même passé beaucoup de temps chez Art Média pendant 20 ans, et j'ai eu la chance de connaître toutes les danseuses, je me suis dit, on peut faire une série féminine autour des danseuses qui viennent de tous les pays du monde. Et donc voilà, on prépare ça. Et sinon.
Je sais aussi que vous siégez dans les commissions du CNC, par exemple, du Centre National du cinéma. C'est quoi les tendances des films qui sont proposés pour aider à être développés? Ça m'intéresse toujours de savoir, sachant que ça ne va pas sortir avant 3-4 ans, puisque ça met un petit peu de temps, mais c'est quoi les grandes tendances?
Alors moi, j'étais à l'avance sur 7 avant que les films soient faits.
Oui.
Et ça, c'est franchement, c'est, je l'ai fait trop souvent, c'est 30 scénarios à lire par mois, pas par jour, mais c'est au moins beaucoup. Deux par jour. Ouais. Donc là, là, on voit ça. Oui, c'est quand même quelquefois. Alors moi, je trouve que quand même, il y a des fois une dichotomie entre le jury de ces gens qui sont des experts, parce que dès que ça peut être populaire, ils n'ont pas envie. Ah. Et moi, je me battais à chaque fois en disant, mais le cinéma, regardez la preuve, et Guillemette, elle nous a fait à la fois, il y a du cinéma d'auteur et du cinéma
absolument.
plus ouvert, plus populaire, accessible. Plus accessible. Et donc là, par contre, je suis l'avance sur cette film terminée. Comme ça, on voit une projection et puis ça me permet de peut-être déjà de voir des films pour Angoulême. Et par exemple, hier, on peut le dire, on a donné une subvention au film terminé qui est La Syndicaliste. Et comme je sais qu'il y a bientôt Isabelle Huppert...
On l'a reçu avec Jean-Paul Salomé. Avant-hier, qui est un très beau film, en effet. Vous avez évoqué le festival du film francophone d'Angoulême. Venons-y, c'est la Suisse cette année, le pays
invité. C'est la Suisse,
invité.
Ouais. Parce qu'on a fait le Rwanda l'année dernière, on était ravis. Moi, j'étais au Rwanda, je pense que j'ai adoré le Rwanda. Et si Mélenchon était passé, je serais allé vivre au Rwanda. Parce que franchement, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays qui a quand même, après ce qu'il a vécu, c'est un exemple de l'Afrique où les femmes sont présentes, où l'homophobie est condamnée, où la propreté... C'est vraiment où l'écologie est partout. J'ai adoré ce pays. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et donc, on a envie un peu de se reposer. La Suisse, ça va être beaucoup
plus
simple.
C'est plus facile pour vous, d'aller. Avec Marie-France Brière, bien sûr, toujours.
Avec Marie-France, et surtout, il y a plein de cinéastes suisses qui sont partis cette année. Ah. Et ouais. C'est peut-être, parlons de, bien sûr, de Tanner et de Godard. Et il y a tout un nouveau cinéma suisse. Donc voilà. C'est facile à dire pour moi, Suisse.
Suisse, c'est bien. Ah, je ne savais pas que vous choisissiez les pays en fonction de la prononciation. C'est bien malin, ça, Dominique. Il est temps de présenter des excuses, Daniel Morin.
Absolument. Déjà, désolé pour notre camarade Tristan Lopin, qui m'a confié en larmes à la pause qu'il rêvait de jouer dans la fameuse pièce que personne ne produit, malheureusement, la pièce « Mon cul sur la commode ». Alors, Tristan, je me suis renseigné. Pour avoir le rôle, il faut coucher chez Conforama. Désolé pour nos fidèles auditeurs habitués à ce que l'on reçoive des comédiens de seconde zone, hein, comme les définit Nagui, exemple Berléand, Ninet, Arditi, et qui ce matin ont entendu parler de grands noms comme Marlène Jobert, Annie Girardot, Bardot, Moreau, c'est clair. C'est pas la même division. Et en même temps, hier, avant-hier, on avait Isabelle Huppert. Et lundi, on a Michel Blanc et Julia Piaton. On est pas mal quand même. Désolé enfin pour Dominique Besnier et Tristan Lopin, parce que j'ai eu un producteur au téléphone, un homme d'origine égyptienne de petite taille, qui m'a dit « Banco, je produis mon cul sur la commode avec Besnier et Lopin. Dis-leur que j'adore les meubles. »
Merci Daniel. Et puis bonne nouvelle. C'est en effet le week-end, on se retrouve lundi dans la bande originale avec Michel Blanc et Julia Platon pour parler d'un joli film. Merci à vous d'avoir été là autour de la table. Merci Dominique Besnéard.
Merci beaucoup de m'accueillir. Hein.
Et à très bientôt.
Toujours un plaisir de voir Leïla et le groupe. Oh. Daniel, il y a certains que je connais moins, mais...
Ouais, voilà. Mais revenez bientôt.
Vous avez visité les principaux, c'est bon.
Merci Dominique et passez une belle journée sur France Inter. Bon week-end. Bonjour Dorothée Barba, comment ça va aujourd'hui et surtout, où allons-nous et de quoi parlons-nous ?
Bonjour.